Le Grand Dialogue.
Sigafoba.
Odewani wa makara.
Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.
Chenibiri.
Halugmoni.
Chenibiri.
Sigafoba. Le Grand Dialogue.
Réformes politiques et institutionnelles au Mali, d'où viendra l'argent? C'est le thème du Grand Dialogue de ce soir. Et nos invités sont Modibo Mahoumakalou, économiste, professeur Oumar Boiré, économiste et également chercheur au Centre de recherche en sciences économiques et sociales Nkoni, et docteur Etienne Fakaba Sissoko, économiste et également chercheur au Centre de recherche et d'analyse politique, économique et sociale CRAPES. Je suis Mouhamadou Touré, chers auditeurs, téléspectateurs, internautes qui nous suivent en direct sur Facebook. Bonsoir et bienvenue.
Le Grand Dialogue.
La révision constitutionnelle, le découpage administratif, pour ne citer que ces deux, des réformes politiques et institutionnelles, un processus est en cours au Mali. Mais est-ce que la situation économique du Mali permet à ce pays d'engager ces réformes, professeur Oumar Boiré?
Monsieur Touré, il semblerait que c'est quelque chose qui a été plus ou moins imposé au gouvernement malien, bien que du temps de Alpha, la décision de la décentralisation a été prise. Mais à mon avis, l'État ne dispose pas de suffisamment de moyens financiers pour appliquer ces réformes.
D'accord, imposé par qui?
Ben, disons que dans l'accord de la paix, on a imposé au gouvernement malien d'aller pour la décentralisation accélérée de façon à donner une certaine autonomie à chaque région. Et c'est les assemblées régionales qui doivent occuper un plus grand rôle par rapport au gouvernement central.
On impose ça au gouvernement et même s'il n'a pas les moyens, il décide de...
Disons que le gouvernement, il fait ce qu'on lui dit de faire. Et ceux qui lui ont imposé...
Voilà. Excusez-moi, alors qui gouverne?
Qu'est-ce qui gouverne? Il faut... M. Touré, notre pays est malheureusement sous tutelle. Et ça, il faudrait que vous le sachiez. Et que les décisions sont prises à Paris, à Washington. Et ce n'est pas ici que les décisions sont prises. Ils essaient de s'accommoder et de voir ce qui peut être fait, ce qui ne peut pas être fait. Mais s'il y a beaucoup de résistance, il y a beaucoup de pression qui viennent des partenaires techniques et financiers qui détiennent le cordon de la bourse également.
D'accord. Docteur Etienne Fakaba Sissoko, estimez-vous comme professeur Boiré que le Mali n'a pas les moyens de réformer?
Je ne dirais pas ça comme ça. Je dis simplement, vous avez rappelé deux réformes et je dis qu'il y a d'autres réformes comme la révision, par exemple, de la loi électorale, du système, la refonte même du système électoral. Et qui aujourd'hui ne sont pas des décisions ou une volonté de l'extérieur, mais qui sont les résultantes d'un vécu de notre pays, qui sont les résultantes d'un exercice démocratique qui a montré ses limites. Et les élections présidentielles de 2018 nous ont montré évidemment que notre pays a besoin de réformes. En juin, vous allez avoir une énième prolongation du mandat des députés, montre également, pour ne pas tomber dans un vide constitutionnel, montre également que notre démocratie a besoin également de réformes. Parce que les options qui s'offrent à nous, c'est soit le président dissout l'Assemblée nationale et auquel cas il a 40 jours pour organiser les élections législatives pour une nouvelle Assemblée nationale, ce qui techniquement n'est pas faisable. Donc montre encore une fois de plus une des limites de notre Constitution. Donc aujourd'hui, je pense que la pertinence de réformes pour notre pays, la nécessité pour les Maliens de façon unanime, de façon consensuelle, d'aller vers les réformes ne font l'objet d'aucun doute.
Maintenant, vous pensez que c'est nécessaire, mais est-ce qu'économiquement le Mali peut supporter ça?
Tout est une question de volonté politique de mon point de vue. Parce que aujourd'hui, ce n'est pas, comme je l'ai toujours dit, ce n'est pas l'argent qui manque au Mali. Ce n'est pas une question de budget, mais c'est une question d'allocation des ressources. C'est une question surtout de vision politique et de vision économique. Aujourd'hui, il y a énormément de poches budgétaires sur lesquelles nous pouvons faire des économies, des investissements sur lesquels nous pouvons rationaliser davantage, comme le budget de l'Assemblée nationale,
d'accord,
le budget
de la primature. D'accord, on va y revenir en détail. Donc, vous pensez que c'est bien possible de réformer?
Absolument, et c'est même indispensable pour la survie de notre pays.
D'accord. Moribo Maoumakalou, est-ce que vous pensez que le budget du Mali peut supporter toutes ces réformes?
Et vous savez, le budget, nous sommes dans l'économique. Hein. L'économique, ça veut dire que les besoins sont illimités, mais les ressources sont limitées. En fait, c'est notre loi fondamentale, la Constitution de 1992, dans son article 70, qui détermine, qui stipule que les ressources et les charges de l'État sont déterminées par une loi de finances qui détermine le budget général d'État. Et dans ce budget général d'État, pour l'année 2019, dans ces grandes orientations, il est pris en compte au plan interne la loi d'orientation et de programmation militaire, celle de la sécurité intérieure, l'accord pour la paix et la réconciliation nationale, l'incidence financière des avantages accordés aux salariés suite aux négociations, aux différentes négociations avec les partenaires sociaux, le renforcement des crédits alloués à l'agriculture, aux secteurs sociaux et aux dépenses en capital, et aussi les transferts en ressources budgétaires aux collectivités territoriales qui doivent atteindre 30%. Ça, ce sont les priorités que le gouvernement a affichées dans la loi de finances 2019. Donc, un budget, en réalité, détermine les priorités accordées aux différentes... l'exécution des priorités et leur financement. Et c'est ce que je viens d'énoncer. Et donc, tout cela, les différents secteurs que je viens priorités que je viens d'annoncer ont déjà été pris en compte dans la loi de finances 2019. En réalité, nous avons un budget en charge de 2023, en recette de 2023 milliards et en charge de 2410 milliards. Donc nous avons à peu près pas loin de 400 milliards de déficit budgétaire. Mais ce déficit est structurel. De l'indépendance à nos jours, le Mali n'a jamais eu un budget équilibré en recette et en charge. Ce n'est pas notre cas seulement. Ça veut dire que nous avons toujours dépensé plus que nous avons engrangé en recettes. Et cela pose un problème. Comment financer ce déficit? Ce déficit est financé notamment par les emprunts. Vous entendez tous les jours que le Mali a...
Oui, mais est-ce que le budget actuel du Mali peut supporter toutes les réformes qui sont prévues par le gouvernement?
Celles que j'ai citées sont prises en compte dans le budget 2019.
D'accord.
Mais il y a des négociations qui sont continues. Il y a des engagements qui ont été pris il y a quelques jours, il y a quelques semaines, et qui peut-être il y en a d'autres qui vont être prises en compte. Mais maintenant, moi, je ne sais pas comment on va incorporer tout ça dans le budget. C'est peut-être au ministre des Finances et au gouvernement de voir
Etienne Fadoukabassissou, vous dites que l'argent ne manque, c'est pas l'argent qui manque. Pourtant, il y a certains qui estiment que les caisses de l'État sont vides. Et est-ce que les indices économiques confirment ce constat?
Oui, c'est pourquoi je dis que ce n'est pas une question de budget, ce n'est pas une question d'argent, mais c'est une question d'allocation des ressources. C'est une question de gouvernance économique. Ce n'est pas parce qu'on alloue 15% du budget à l'agriculture que forcément les résultats vont être proportionnels à l'allocation de ressources. Mais là où je voudrais insister, c'est les points énumérés par M. Makalou, qui, de mon point de vue, vont évoluer d'ailleurs dans le temps, parce que ce budget n'est en réalité que le budget de 2019, qui est un budget programme, qui va évoluer parce que la situation politique a exigé un certain nombre de données qu'il faudra intégrer, comme l'organisation en cours du dialogue national, du dialogue politique inclusif, qui va, de mon point de vue, prendre en compte également d'autres types de réformes qui ne sont pas forcément liées à l'application de l'accord pour la paix et qui ne sont même pas liées aux problèmes démocratiques que nous sommes en train de rencontrer. Et ce qui va nécessiter la prise en compte de ces termes budgétaires de ces dépenses budgétaires dans le budget de 2020 ou de 2020 à 2023, si c'est un budget programme également. Donc, de mon point de vue, il faut aujourd'hui voir comment mobiliser les fonds pour justement faire face à ces réformes. De mon point de vue, il y a d'abord...
Et comment ? On va y revenir tout de suite. Vous estimez, okay, professeur Omar Bouaré, que le Mali ne peut pas supporter toutes ces réformes. Alors, d'où viendra l'argent ?
Disons que, pour rejoindre le point de vue de Makalo, le Mali, depuis des années et des années, a vécu avec des appuis budgétaires venant de l'Occident, des organisations internationales. Donc, ça veut dire que, de façon chronique, on est en déficit. Et si on est en déficit, on a beau tirer par-ci, par-là, on ne pourra pas payer ce qui doit être fait. Ça, c'est une évidence de mon point de vue. Alors, maintenant, il y a les organisations internationales qui sont très partants pour l'accord de la paix, qui ont exercé pas mal de pression pour cet accord. Ce sont ces organisations qui vont accompagner le Mali. Ils le feront. La Banque mondiale a déjà donné un financement additionnel, l'AFD aussi, le Danemark aussi. Et tout ceci, c'est pour aider à parachever ce qui a été demandé au gouvernement malien de faire.
Donc le Mali compte sur ses partenaires.
Ben, le Mali ne peut pas le faire. Les partenaires le savent d'ailleurs. Ils le savent parce que c'est un pays qui est pauvre, c'est un pays qui n'est pas industrialisé et qui vit des subsides de l'agriculture suivant.
Est-ce un pays réellement pauvre ?
Le Mali ? Eh bien, bien entendu. À partir du moment où tes recettes ne peuvent pas couvrir tes défenses, on ne peut pas dire que tu es un pays riche. Ce n'est pas possible. Autrement, pourquoi on serait en déficit chronique depuis toutes ces années ?
Est-ce un pays pauvre ou un pays mal géré ?
Non, il y a les deux. Il y a les deux. Les allocations dont M. Sissoko parle ou parlait, et c'est un fait que, bon, on peut donner priorité à tel ou tel secteur. Mais la question qui est là, peut-on retirer l'argent de la programmation militaire pour le verser ailleurs? Parce qu'il y a quand même des priorités pour la survie de ce pays. Et ça, on ne peut pas le faire de mon point de vue. Et il faudrait que l'argent vienne d'ailleurs pour amener le gouvernement à pouvoir appliquer tout ce qu'on lui demande. Sans compter que la société civile est en train de rire dans les brancards pour demander qu'on augmente ses allocations dans tous les secteurs pratiquement. Et on a assisté à plein de grèves, de revendications de gens qu'ils estiment qu'ils sont mal lotis dans l'affaire et que bon, le gouvernement doit songer à augmenter leur salaire. Alors, les écoles ont été fermées à cause de ça. Et l'État, bon, je pense que récemment, ils ont réussi à atteindre un accord en impliquant les religieux, les parents d'élèves, les familles fondatrices, bon, pour calmer cette paix sociale. Mais le problème demeure entier et il y a des revendications qui sont légitimes que l'État ne peut même pas satisfaire, à plus forte raison, ce qui a été rajouté.
D'accord. Justement, il y a le gouvernement qui a pris des engagements pour plusieurs syndicats, notamment celui des enseignants. Ça, c'est également des dépenses qui vont venir. Est-ce que l'État pourra supporter toutes ces dépenses ?
Écoutez, moi, je vais vous dire, nous avons des engagements non seulement à l'interne, mais aussi à l'externe. C'est-à-dire, nous avons des engagements avec nos partenaires extérieurs. En l'occurrence, nous avons une facilité, nous avons souscrit à un programme de facilité élargie du crédit avec le Fonds monétaire international. Le premier objectif de ce programme, c'est de rétablir l'équilibre budgétaire du solde de base. Donc, est-ce que dans ce cadre-là, parce que si vous avez un programme avec le Fonds monétaire et que vous n'appliquez pas les recettes qui vous permettent de rétablir vos recettes avec vos dépenses, vous allez amener des distorsions dans l'économie, comme les arriérés, les arriérés intérieurs, les pays, etc. Et vous allez aussi alourdir l'endettement. Donc, quand vous êtes en programme avec le Fonds monétaire que vous ne suivez pas, les autres partenaires ne vont pas vous suivre, y compris les banques privées et les banques multilatérales. Donc, mais aussi, nous avons des engagements au niveau sous-régionale, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, 15 pays, il y a des critères de convergence. Il y en a sur 8. En 2019, il est prévu que le Mali en respecte que 3. 3 sur 8. Et à l'UMOMOA aussi, au niveau de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, qui regroupe les 8 pays de l'Afrique de l'Ouest qui en partagent le franc CFA, nous respectons la moitié des critères, 3 sur 6. Et là aussi, selon certains critères, la masse salariale doit équivaloir à un certain pourcentage des recettes fiscales. 33. Donc nous ne respectons pas aussi ces critères. Parce que, à cause des engagements pris, nous sommes allés un peu au-delà de ces critères. Et cela est très important que nous respectons ces engagements. Mais ce que j'ai noté aussi qui m'inquiète beaucoup par rapport au budget 2019, c'est la diminution des investissements au profit du fonctionnement. Si vous prenez les acquisitions en équipement et en capital, le budget alloué a diminué pour aller renforcer le fonctionnement. Alors que si dans une économie, si vous ne renforcez pas la productivité et la compétitivité d'une économie, mais écoutez, vous n'allez pas faire grandir la richesse nationale pour la partager de manière inclusive entre les populations. Donc, vous ne pourrez pas réduire la pauvreté ni augmenter le niveau de revenu des populations. Donc, il peut y avoir des réallocations au sein du budget, comme le professeur Boiré l'a dit. La défense et la sécurité sont la part léonine du budget, au-delà de 20%. Mais aussi, vous avez le secteur de l'éducation qui est assez bien loti, mais qui a légèrement diminué dans le budget, et la santé, les affaires sociales, et de l'agriculture. N'oubliez pas aussi que nous avons souscrit à la convention de Maputo qui disait que nous devions investir plus de 10% au niveau de l'agriculture. Mais ce qui est justifié, parce qu'au moins nous avons au moins 75% de la population qui est dans ce secteur et que le secteur primaire, c'est-à-dire le développement rural, fournit à peu près 40% de notre produit intérieur brut, c'est-à-dire notre richesse nationale.
Donc globalement, le Mali compte sur ses partenaires. Est-ce que ses partenaires font confiance au Mali ?
Mais le Mali et le Bangladesh ont toujours compté sur le partenaire depuis 1960. Moi, j'ai été membre du groupe de travail sur l'efficacité de l'aide au niveau de l'Organisation pour la coopération et le développement économique à Paris. Et nous avons fait une étude, nous avons fait une grande convention qui s'appelle la Déclaration de Paris, où nous avions demandé de réduire les coûts de transaction sur l'aide au développement. Parce qu'il y a des pays comme le Mali qui dépendent de l'aide au développement. Mais vous prenez un pays comme le Maroc ou l'Afrique du Sud, c'est 2%. Mais qu'est-ce que les partenaires extérieurs financent au Mali ? C'est pratiquement 25% du budget national. Nous ne sommes pas un pays souverain. 25% du budget national provient de l'extérieur. Les investissements publics à plus de 60% sont financés par l'extérieur. C'est une problématique. Donc il est urgent que nous équilibrons notre budget et que nous définissons nos priorités, mais surtout que nous augmentons le renforcement de l'investissement.
Est-ce qu'aujourd'hui, les partenaires font confiance au Mali ?
Moi, j'ai remarqué que les appuis budgétaires dont le docteur Boiré a parlé ont diminué. Et je vois que, parce que les appuis budgétaires, il y a les appuis budgétaires sectoriels, il y a les appuis budgétaires globaux. Et à la conférence de Boussan, où j'étais Sherpa pour la commission de l'Union africaine et du NEPAD, pour les 54 pays africains, les chefs d'État nous avaient demandé, les chefs d'État de l'Union africaine, la commission de l'Union africaine, avaient demandé qu'on renforce les procédures et les systèmes nationaux et les procédures budgétaires, que l'aide budgétaire soit renforcée. Mais je constate de nos jours que de plus en plus, les partenaires font de l'aide-projet. Ce qui, au contraire, déstructure davantage nos systèmes nationaux et leurs effets, leurs résultats ne sont pas pérennisés non plus.
D'accord. Docteur Étienne Fakabassoukou, est-ce normal qu'après 59 ans d'indépendance, le Mali dépende toujours des partenaires ?
Je ne suis pas d'accord justement avec cette assertion. Il faut que l'on se comprenne. On parle de réforme. Et de mon point de vue, on ne parle pas que de réforme politique. Mais les réformes, c'est politique, mais c'est aussi dans le domaine économique. Et donc, de ce point de vue, nous ne prenons pas comme hypothèse de base le fonctionnement actuel de l'économie, qui, de mon point de vue, doit être pris en compte également dans les réformes qui doivent être entamées. C'est pourquoi je voudrais rappeler à mes chers professeurs que quand nous parlons de budget, on ne parle pas que des recettes
privées de l'État. On ne parle pas que des recettes propres de l'État. Parce que le budget n'est pas constitué que de ces seules recettes. Et je ne pense pas, je peux me tromper, mais que dans le monde, il y ait un pays qui ne fonctionne que sur la base que de ses propres recettes. Il y a les recettes, certes, mais il y a également l'appui budgétaire dont ils ont parlé des institutions internationales, mais il y a le financement sur le marché international également. Et récemment, nous avons mobilisé près de 60 milliards autour de la construction d'infrastructures comme le deuxième pont de Kai. Il y a également la participation qui est très développée dans notre pays, mais la mobilisation de l'épargne des ménages au niveau national pour financer l'investissement. Donc moi, quand je parle de réforme, je mets dans le sac toutes ces réformes au niveau économique qui doivent accompagner ces réformes politiques-là. Et donc cela a comme avantage de voir, par exemple, que notre économie ne fonctionnera pas uniquement sur la base d'une finance publique, parce que depuis qu'on a commencé le débat, tout ce qu'on dit, ce n'est que sur la finance publique. Le budget, l'évolution du budget, son allocution, etc., etc. Et moi, j'aimerais qu'on s'intéresse justement à l'économie réelle, au secteur privé, qui, de mon point de vue, a un apport considérable à jouer en termes de réformes économiques que nous devons amorcer. Par exemple, le rôle des banques, qui aujourd'hui ne finance pas l'économie. Le rôle des banques, qui aujourd'hui ne finance pas l'entrepreneuriat. Le rôle des banques, qui aujourd'hui se limite simplement au financement des petits prêts pour la consommation domestique. Et ce rôle doit évoluer, cela doit être une réforme majeure de notre pays. Mais restons dans le cadre des finances publiques. Aujourd'hui, nous assistons à une évolution permanente des budgets de chaque département. Une multiplication des départements ministériels. Vous prenez l'Assemblée nationale, qui ne travaille dans l'année que 155 jours, qui pourtant est passé d'un budget entre 2010 à maintenant, d'un budget de 9 milliards, à un budget de presque 20 milliards aujourd'hui. Pour quel résultat? Pour quelle efficacité? Pour quelle augmentation des charges liées au travail confié à l'Assemblée nationale? Ce sont des choses comme ça qu'il faudrait voir. Vous prenez la même chose avec toutes les institutions de la République du Mali, vous voyez qu'il y a une augmentation permanente et continuelle de ces budgets. Et à côté de cela, l'investissement...
Est-ce des nécessités ou est-ce la corruption?
Non, c'est une mauvaise utilisation des ressources publiques. C'est ce qu'il faudra changer. Et donc, quand je parle de rationalisation des dépenses publiques, je parle de cela. Quand je parle également... De chercher les fonds dans le budget de l'État, il s'agit de voir aujourd'hui les institutions qui sont inopérantes, mais qui pourtant sont budgétivores, qui existent et qui continuent à bouffer de l'argent. Il s'agit de revoir la question de la rationalisation des institutions de la République. Aujourd'hui, dans la mise en œuvre de l'accord pour la paix, je suis de ceux-là qui pensent que la création d'un Sénat, par exemple, n'engendre pas forcément une augmentation du budget ou la création de charges supplémentaires. Parce que nous avons le Haut Conseil des collectivités territoriales qui pourrait jouer ce rôle-là. Il suffirait simplement de renforcer les prérogatives de cette institution pour faire de cela un Sénat. Et de ce fait, on règle d'abord la question de l'accord pour la paix, sans pour autant augmenter les budgets de notre... Donc il s'agit plutôt d'aller vers une application intelligente des réformes et dans tous les secteurs, pas seulement que politique, mais dans les secteurs économiques aussi, en renforçant le regard citoyen pour éviter la corruption, en renforçant le rôle des institutions de contrôle que sont par exemple le bureau du vérificateur, dont les rapports doivent être aujourd'hui pris en compte, pris à bras le corps par la justice, pour recouvrer le manque à gagner que cela entraîne. Nous sommes aujourd'hui à presque 1 000 milliards, soit la moitié du budget en seulement 5 ans de rapport du bureau du vérificateur. Imaginez qu'on arrive à recouvrir une partie de ce fonds qui pourrait être utilisé également. Donc je dis qu'aujourd'hui, nous n'avons pas, encore une fois, nous ne sommes pas un pays pauvre, nous ne sommes pas un pays en manque de ressources financières, mais nous sommes un pays qui manque de vision politique, un pays qui manque de vision économique et qui aujourd'hui se trouve dans une mauvaise gestion qui n'encourage pas la mise en, œuvre d'un certain nombre de réformes.
D'accord. Est-ce que ces solutions proposées par Makalou et Sissoko, vous êtes convaincu de ces propositions que ces réformes sont possibles?
Je crains qu'il y ait une confusion entre le court terme et le long terme. Quand on applique les réformes, avant que les réformes produisent des résultats qui peuvent engranger de l'argent, dans le quotidien, il faut continuer à répondre aux besoins financiers de l'État. Et avant que ces réformes n'aboutissent, je crains que l'État ne soit pas en mesure de faire face aux besoins financiers. Et c'est ce qui est ma préoccupation. C'est pour ça que je dis que le Mali n'a pas les moyens à l'heure actuelle. Et les réformes dont il parle, ça, c'est des réformes de long terme. Le temps que ça s'inscrive et ça s'insère dans le pays, et que ça rapporte des subsides à l'État pour que les choses soient gérées un peu plus convenablement, pendant ce temps, il faut prévoir comment le gouvernement va faire pour financer.
Justement, est-ce que le Mali aujourd'hui doit réfléchir à des réformes pour un long terme ou à des réformes pour un court terme?
Non, je pense qu'il y a les deux. Il y a des choses qui peuvent être faites dans le court terme, il y a d'autres qui peuvent être faites dans le long terme. Mais le problème du secteur privé, les entreprises sont en train de fermer avec la crise partout. Le problème de l'électricité, pareil. Et c'est un coût, prohibitif. Pour les entreprises.
Mais les réformes à court terme ne coûtent-elles pas plus cher que les réformes à long terme, puisqu'il faut encore les revoir?
Ça dépend quel type de réforme vous prenez. Parce qu'il y a des choses qui peuvent se faire sans engager beaucoup de fonds. Encore faudrait-il que le gouvernement soit décidé à les faire et qu'il y ait moins de pression des lobbies pour que ça puisse se faire convenablement sans créer des remous sociaux. Mais il y a d'autres, qui ne peuvent pas se faire dans l'immédiat. Et ça, c'est un fait. Que ce soit au niveau du secteur privé au Mali, il ne peut pas apporter grand-chose à l'état actuel de la chose. La majeure partie des grandes entreprises qui fonctionnent au Mali, qui sont des entreprises maliennes, il y a des entreprises étrangères, évidemment, mais la gestion de ces entreprises, si tu les regardes, en fait, c'est une gestion familiale. Toi, tu es une boutique, tu as les bénéfices de la boutique, tu manges à la fois le capital et le bénéfice. Regardez à l'API, le nombre d'entreprises qui sont créées annuellement et le nombre d'entreprises qui sont fermées annuellement. Vous vous rendrez compte de ce qui se passe. Parce qu'il y a un problème de gestion, de viabilité de ces entreprises. Et l'API serait bien inspirée, une fois qu'ils ont donné l'accord de création des entreprises, de mettre une commission pour les accompagner jusqu'à ce que ces entreprises peuvent se suffire à elles-mêmes. Mais ce n'est pas le cas. Une fois qu'ils ont les papiers pour leur donner l'autorisation, la personne gère.
Donc vous rejoignez Sissoko sur ce fait qu'il y a un problème de mauvaise gestion et un manque de vision.
Le problème de mauvaise gestion, ça c'est admis de tout le monde. Je ne pense pas qu'il y ait une discussion sur cette question. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des réformes qui peuvent s'appliquer immédiatement, il y a d'autres qui ne peuvent pas. Et le temps que les réformes de long terme puissent avoir leurs effets, il faut que l'État puisse trouver les moyens de s'occuper du pays en ce temps. Et ça, je ne suis pas du tout sûr.
D'accord, M. Makalou, même si on avait ces fonds, est-ce que il n'est pas urgent d'investir ailleurs que sur ces réformes?
Écoutez, j'ai peur qu'on ne prenne les conséquences pour les causes. Parce que ce que vous appelez réformes sont les conséquences. Mais quelles sont les causes de ces réformes? Vous savez, j'ai tout à l'heure dit que c'est la Constitution qui détermine, qui stipule qu'il faut que l'État, à travers un projet de loi de finances, détermine ses ressources et ses charges. Pourquoi on fait cela? C'est pour ne pas aller à U et à DIA. Le respect de la programmation budgétaire est important. Ça détermine la crédibilité d'un pays. Mais il y a une loi rectificative qui peut aussi permettre d'amender le contenu des allocations budgétaires. Donc, ce n'est pas ça le plus important. Maintenant, nous avons un gros problème de défense et de sécurité. Des fonds sont alloués là-bas. Mais, comme j'ai dit, le budget n'est pas extensible définitivement. Il va falloir choisir des priorités. Mais maintenant, parlons de déficit. Nous avons un déficit budgétaire d'environ 400 milliards de francs CFA sur les 2400 milliards de dépenses que nous projetons de faire en 2019. Mais aussi, nous avons un déficit de la balance des paiements d'environ 102 milliards. Qu'est-ce que cela veut dire? La balance des paiements enregistre systématiquement toutes les transactions économiques de notre pays avec l'extérieur. Mais de l'indépendance à nos jours, cette balance des paiements aussi a toujours été déficitaire. Cela veut dire que nous achetons plus à l'extérieur, nous faisons plus de transactions, notre argent sort plus que nous ne vendons. C'est nos exportations, par exemple, notre premier poste dans la balance des paiements, dans la balance commerciale. Vous savez ce que c'est? Ce sont les ressources énergétiques, le pétrole, l'essence et tout ça. 420 milliards par an, le Mali achète à l'extérieur. L'alimentation, qui est le quatrième poste, 330 milliards de produits alimentaires achetés chaque année à l'extérieur, alors que nous sommes l'un des pays, l'une des puissances agricoles de la sous-région, mais nous ne transformons rien. Donc nous avons un problème de politique industrielle. C'est un problème de gouvernance dans le sens le gouvernement des personnes et l'administration des choses. Comment nous administrons et comment nous gérons nos ressources humaines. C'est ça la problématique fondamentale de tous nos pays en voie de développement. Mais aussi, je veux dire, pour les réformes. Donc, quand vous avez ce double déficit, ça vous amène directement chez les partenaires au développement parce que ce n'est pas soutenable à terme. Vous avez vos besoins sont plus grands que les ressources dont vous disposez. Donc, vous êtes obligé de faire appel. Et un pays comme le nôtre, contrairement à ce que le professeur Sissoko dit, si vous n'êtes pas en programme avec le Fonds monétaire et la Banque mondiale, personne ne vous prêtera un copec si vous avez des problèmes d'ajustement. Personne ne vous prêtera un copec. Et maintenant, donc vous devez vous ajuster quand vous avez ce double déficit, balance des paiements et budget. Vous devez vous ajuster. Et donc quand vous décidez de vous ajuster, maintenant, vous entreprenez des réformes. Et ces réformes sont à deux niveaux, comme le professeur Boiré l'a dit. Les réformes conjoncturelles, ce sont des réformes que vous pouvez entreprendre tout de suite, à moyen et à court terme. Mais vous avez des réformes structurelles qui sont liées même à la structure de l'économie, que vous ne pouvez pas changer du jour au lendemain, mais que vous devez faire à terme. Et ce sont ces deux réformes qui devraient vous permettre de rétablir cet équilibre financier, cet équilibre économique, et vous permettre d'entreprendre des bonnes politiques publiques.
Alors, on a parlé de ce que ces réformes vont coûter au Mali. Est-ce que ces réformes vont apporter quelque chose à l'économie du Mali, Dr Etienne Fakabasso?
Non. Si le constat qui est admis par nous tous ici, c'est que la situation du pays, elle est exécrable. Cela ne souffre d'aucune contestation. Je le pense en tout cas. Et si cela est vrai, la nature d'une réforme, c'est de justement bousculer cet état de fait et d'amener le pays vers de nouveaux horizons pour améliorer justement les conditions des uns et des autres. Et lorsque on écoute mes co-débatteurs, j'ai l'impression qu'il y a une certaine mauvaise foi qui se glisse parce que mon professeur, qui est statisticien par excellence, qui a même travaillé sur ces questions-là dans des cellules de prospective comme au cadre de ce pays, c'est que lorsqu'on prend les chiffres sans les mettre dans leur contexte, lorsqu'on prend les pourcentages et qu'on les 10% de 1000 francs et 10% de 100 000 francs, ce n'est pas la même chose, on est d'accord. Donc, en termes de pourcentage, en termes de chiffres, il faut que l'on puisse s'accorder sur le contexte dans lequel ils s'emploient. Lorsque Makalou parle, par exemple, des réformes de court terme et des réformes de long terme, je n'ai pas fait encore de catégorisation. Pour l'instant, nous parlons de la nature des réformes de façon générale. Le budget dont il parle, ce budget, il l'a rappelé, peut subir une modification, bien qu'étant une loi, à travers la loi rectificative. Donc, les réformes économiques qui vont accompagner ce processus-là doivent également être poursuivies en termes de court terme et de long terme. À quoi sert de mettre des milliards dans une réforme si c'est pour gérer le court terme? C'est justement ce que nous avons reproché à nos gouvernants. C'est qu'il n'y a pas d'esprit prospectif, il n'y a pas d'esprit de vision de long terme. Et donc, les réformes qui doivent être engagées pour le Mali, tant sur le plan politique qu'économique, doivent viser plutôt le long terme. Et sur le long terme, on ne doit pas oublier le court terme. Dans le court terme, par exemple, réduire la taille d'un gouvernement et réduire les allocations budgétaires de telle ou telle institution, réduire telle ou telle institution et regrouper les prérogatives de telle ou telle autre institution. Cela peut se faire dans le court terme. Mais encore une fois de plus, il faudrait qu'il y ait la volonté politique de le faire. Lorsqu'on évoque ici les questions liées au déficit public, au déficit budgétaire, je l'ai rappelé que dans aucun pays à travers le monde, il n'y a un pays où il n'y a pas de déficit budgétaire. Il n'y en a pas. Et maintenant, la question, c'est de savoir comment on finance ce déficit-là. J'ai évoqué les pistes de solutions qui s'offrent à nous, qui sont des solutions classiques, mais qui peuvent aller au-delà de ces questions classiques, au-delà de la question du financement sur le marché international. Nous n'avons pas de problème avec les partenaires, puisque nous sommes déjà membres de ces programmes-là. Donc, si nous cherchions à rentrer dans ces programmes avec les institutions internationales, c'est là que le débat allait se poser. Mais nous sommes déjà dedans. Donc, nous n'avons pas de problème d'être rejetés ou pas.
Même avec les critères à remplir, est-ce que nous n'avons pas de problème à être rejetés?
Aujourd'hui, nous sommes justement dans ces critères-là. C'est parce que nous avons un déficit, nous avons un problème structurel, nous avons un problème conjoncturel que nous sommes inscrits dans ces programmes-là. Donc, ces conditions, nous les remplissons.
Donc, vous pensez que le Mali va gagner économiquement dans ces réformes?
Absolument. D'accord. Parce que si nous sommes d'accord que les choses doivent évoluer, nous serons d'accord que la nature également des réformes, c'est de bousculer les choses et de faire évoluer les choses. Donc nous devons nous inscrire dans ces réformes-là.
Je vous donne la parole tout de suite. Professeur Boiré, est-ce que vous pensez que le citoyen lambda économiquement va gagner quelque chose dans ces réformes?
Disons que si les réformes sont de bonnes réformes, certainement que le pays va y gagner. Moi-même, j'ai dû travailler quand j'étais à la primature sur les bases des réformes. C'est pour ça que nous avons créé les agropôles. Et on a beaucoup insisté sur le fait que le Mali étant par excellence un pays agropastoral, qu'il faut mettre l'accent sur la transformation des produits. Et au départ, on ne voyait pas l'importance de la chose, mais je crois que maintenant tous les gouvernements qui se sont suivis, ont compris que, il fallait le faire. Et ils sont en train de le faire. De ce point de vue, c'est déjà une avancée, même si c'est une avancée relativement lente. Le fait qu'ils aient pris conscience de la chose est déjà un grand pas. Parce que le problème dans notre pays, c'est que les gens ne savent même pas où se trouve le problème. Ils ne savent même pas ce qui doit être fait. Ils gèrent le quotidien. Ils se disent, après moi la tempête.
Justement, et certains pensent que c'est le citoyen lambda qui perd. Alors, est-ce que c'est sûr qu'en faisant ces réformes, la corruption encore ne va pas revenir et que le citoyen lambda va encore rester, va être oublié?
Non, il faut combattre la corruption. On a des outils pour le faire. Il y a le bureau du vérificateur qui a fait des rapports qui dorment dans les tiroirs. Et on ne les a pas appliqués. Et aller sévèrement après ceux qui s'engagent dans ça à des hauts niveaux pour essayer de réduire tout au moins la corruption. Et ça, c'est des choses qui doivent être combattues. On ne peut pas développer un pays en organisant la chose comme une bande de copains. C'est pas possible.
D'accord. Makalou, est-ce que la meilleure des réformes que le Mali puisse engager aujourd'hui ne devrait pas concerner la lutte contre la corruption, puisque c'est ce qui est signalé comme problème par pratiquement tout le monde?
Il faut lutter contre toutes les distorsions, y compris la corruption. Mais vous savez, on parle beaucoup de corruption, mais moi, je pense plutôt à la déperdition des ressources publiques. Vous savez, il y a les recettes fiscales. Le docteur Sissoko vient de parler de réforme et je pense que peut-être il n'est pas tout à fait au fait de ce qui se passe au niveau de la facilité élargie de crédit, mais le Mali a obtenu une dérogation parce que nous n'avons pas atteint notre objectif de recette fiscale pour 2018. Nous sommes à près de 200 milliards en dessous de l'objectif que nous nous étions assignés. Donc, quand vous êtes déjà dans cette position, vous êtes en position de faiblesse. Mais tout cela peut se rattraper. Et l'agriculture, le secteur primaire est une priorité. Si vous prenez la structure de notre économie, le développement rural, c'est 40% de notre richesse nationale, de notre PIB. Vous avez le secteur secondaire, les industries, les mines, 20%. Le secteur tertiaire, 40%. Mais comment peut-on se glorifier d'être premier producteur africain de coton et ne transformer que 2%? Comment peut-on être avoir l'un des plus importants cheptels en Afrique de l'Ouest et ne pas produire de peau ni de cuir et importer du lait en poudre? Et comment peut-on être une puissance agricole et importer pour 330 milliards de produits alimentaires qu'on pourrait produire ici? Mais il faut un certain nombre de réformes structurelles. Il nous faut l'accès à l'énergie. Il nous faut transformer nos produits. Il faut l'accès au crédit. Le docteur Sissoko l'a dit. Et je pense que la politique monétaire est en train d'aller dans ce sens. Parce que j'ai vu que maintenant, ils sont, en tout cas, il est important qu'avec, au niveau de la Banque centrale, on encourage davantage une plus grande allocation au financement de nos économies nationales. Parce que l'inflation au Mali est à moins de 2%, alors que l'objectif communautaire est de 3%. Nous avons de la marge. Et le taux de crédit, le taux interbancaire est environ 4%. Et nous avons des crédits à 10%. Il y a de la marge pour rabaisser le coût du crédit et octroyer davantage de crédit à l'économie nationale. Mais aussi, nous devons renforcer, en tout cas, la base productive de notre économie, parce qu'il y a une grande déperdition. Je parle du secteur privé et du secteur informel. Vous savez, nous avons une administration très centralisée. Et parce que nous avons copié ça sur la France jacobine. Mais ce n'est pas ça l'objectif. Il faut que les citoyens, les relations entre les citoyens et l'administration soient améliorées. Que l'administration se mette au service du citoyen pour que l'on puisse produire davantage. Mais l'État aussi doit faire beaucoup d'efforts en renforçant le développement humain, en investissant davantage dans le capital. Et le premier des capitaux pour moi, c'est la ressource humaine. Si nous n'avons pas les compétences, parce que l'investisseur, nous demandons toujours aux investisseurs de venir, mais les investisseurs, ils dépendent de quoi? Du niveau de profit, des compétences sur le terrain, de la technicité, mais aussi des facteurs de production. Et dans ces facteurs de production, vous avez le capital humain, vous avez le capital physique et vous avez le capital financier. Donc c'est un tout. Il faut une gestion holistique.
Alors, docteur Étienne Fakaba Sissoko, vous pensez que c'est une nécessité aujourd'hui? Que faut-il pour que ces réformes puissent être une réussite?
D'abord, il faut que tout ce qui se passe se fasse de façon consensuelle. Il faut que l'expertise soit une expertise nationale. Ça ne sert à rien d'aller à l'étranger cueillir des experts pour se pencher sur le développement de notre pays. Les compétences existent au niveau national. Il faut également que la volonté politique soit clairement affichée pour que les uns et les autres sentent que ce qu'ils sont en train de faire est soutenu et accompagné par l'État. Et il faut également que les politiques, la société civile, la communauté des chercheurs, que tous sentent la nécessité d'aller vers ces réformes-là pour sortir notre pays de ce marasme.
D'accord. En quelques mots, pensez-vous qu'il faut abandonner ces réformes ou juste des réformes à court terme, professeur Boire?
On ne doit pas abandonner les réformes. Si on abandonne les réformes, le pays n'ira nulle part.
Mais les reporter?
Certains, pas toutes, mais il y a des réformes immédiates qui peuvent être effectuées. Il faut le faire.
D'accord.
Mais les autres, il faut plancher dessus.
Merci, professeur Oumar Boiré, économiste chercheur au Centre de recherche en sciences économiques et sociales Nkoni. Docteur Étienne Fakaba Sissoko, économiste chercheur au Centre de recherche et d'analyse politique, économique et sociale CRAPES. Et Modibo Makalou, économiste également à la régie vidéo et audio Mamadi Keïta et Peting Diara. Je suis Mohamedou Touré. À demain pour un prochain numéro du Grand Dialogue de Studio Tamani. Merci à tous.
Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Berry.
Halo Mandi. Chenne Berry.